Radio Prague, les informations.
Bienvenue sur Radio Prague, l'opposition social-démocrate qui juge inadmissible le comportement du ministre des Finances dans le contexte de l'enquête policière sur l'achat des avions en Casa appelle à un vote de confiance au gouvernement. La Chambre des députés a approuvé la hausse d'un point des taux de TVA à partir de janvier 2013. Deux juges de Litoměřice en Bohême du Nord ont été inculpés pour corruption. Le Parti social-démocrate, premier parti de l'opposition, souhaite soumettre le gouvernement du Premier ministre Petr Nečas à un vote de confiance des députés dans le contexte de l'enquête policière sur l'achat douteux des affaires des avions militaires Casa par l'État tchèque. Comme déclaré ce vendredi par le chef du parti, Bohuslav Sobotka, ce vote est une conséquence du fait que le Premier ministre n'a pas réagi à l'appel de l'opposition et de la Commission parlementaire pour la sécurité à la démission du ministre des Finances, Miroslav Kalousek. Ce dernier pourrait être impliqué dans l'affaire de l'achat des avions Casa. Le chef de la police tchèque, Petr Lessé, a déclaré cette semaine avoir été contacté à plusieurs reprises par téléphone par Miroslav Kalousek, qui aurait ainsi essayé d'influencer l'enquête policière. L'opposition social-démocrate juge le comportement du ministre Kalousek d'inadmissible. Le quatrième vote de confiance depuis la formation de l'actuel gouvernement pourrait avoir lieu la semaine prochaine. Les députés ont approuvé ce vendredi la hausse d'un point des deux taux de TVA malgré les protestations de l'opposition. À partir de janvier 2013, les deux taux appliqués devraient donc respectivement passer de 15 et 21%. La Chambre des députés a également adopté une taxe de solidarité de 7% sur les hauts revenus supérieurs à 4 000 € par mois. À travers ces mesures, le gouvernement vise à maintenir dans un avenir proche le déficit du budget de l'État à un montant inférieur à 3% du PIB. Le texte doit encore être étudié au Sénat où le Parti social-démocrate est majoritaire. Bohuslav Sobotka, le président de ce parti d'opposition, a déclaré que tout serait mis en œuvre afin de rejeter la hausse de la TVA. Radim Dragoun, le procureur général de Louny, a inculpé ce vendredi deux juges de la ville de Litoměřice accusés d'avoir touché des pots de vin. Josef Knotek et Ladislav Jelinek avaient été arrêtés à l'automne dernier pour corruption et abus de pouvoir. Ils encourent chacun une peine de 10 années de prison. Trois autres personnes sont impliquées dans cette affaire pour avoir versé ces pots de vin ou pour avoir promis de le faire. Selon Radim Dragoun, ces individus auraient versé ou voulu verser plusieurs dizaines de milliers de couronnes en échange de peines avec sursis ou d'autres avantages. Les deux juges ont été démis de leurs fonctions. Le train vers le non-retour est un train-théâtre spécialement aménagé qui propose ce vendredi à la gare pragoise de Boubné une adaptation théâtrale de la nouvelle prière pour Kateřina Horovitzová de l'écrivain tchèque Arnošt Lustig, un survivant de l'Holocauste décédé en 2011. Le spectacle qui rappelle les transports des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale sera ensuite présenté du 14 au 26 juillet dans les gares ferroviaires de 14 villes tchèques. Au mois d'août, le train sillonnera l'Europe centrale en faisant un parcours symbolique entre Vinci, près de Berlin, Prague, Cracovie et Auschwitz. Côté météo, samedi, jour de la fête des Carolinas, le ciel sera chargé avec des averses sur la majeure partie de la République tchèque. Les températures maximales se situeront entre 18 et 22 degrés. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková. Bonne écoute de la suite de notre programme.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce magazine d'actualité et merci à Magdalena Hrozinková pour son bulletin d'information. Au sommaire de cette édition, Martin Tuchel commencera par vous présenter la maison olympique tchèque qui ouvre prochainement à Londres à l'occasion des Jeux olympiques. La légende dit que derrière chaque tchèque se cache un musicien. Vous constaterez que le Bohemia Jazz Festival, dont nous vous présenterons la première journée de concert et qui animera plusieurs villes du pays durant les prochains jours, semble confirmer cet adage. Enfin, vous pourrez écouter Le Miroir de la Société, la revue de presse que vous propose Alena Gebertova. La passion des Tchèques pour leur maison de campagne, l'absence remarquée de femmes à la candidature de la présidence de la République, ainsi que l'imposante couverture médiatique prévue pour les Jeux Olympiques sont les trois thèmes qui ont retenu son attention. Bonne écoute à tous et à toutes. La maison olympique tchèque sera ouverte le 27 juillet prochain à Londres, jour de l'ouverture des Jeux en présence du président Václav Klaus. Mise en place, comme lors des Jeux olympiques antérieurs, par le comité olympique tchèque, la Czech House aura cette fois une mission un petit peu différente. Outre les sportifs, les sponsors et les invités, elle accueillera également le public tchèque ou étranger, ou plus simplement tous ceux souhaitant découvrir la culture tchèque. Son design reprendra le motif des vêtements olympiques officiels de la délégation tchèque, inspiré du tableau de František Kupka, intitulé « Fugue en deux couleurs ». Plus de détails avec Martin Tuchel.
Situé dans le quartier d'Islington, dans le Business Design Center, bâtiment historique qui n'est pas sans rappeler le pavillon de Vinohrady ou le palais industriel à Prague, la maison olympique tchèque sera facilement accessible tant depuis le centre de Londres que depuis le parc olympique grâce à la proximité de la gare King's Cross. Directeur du centre culturel tchèque Ladislav Plimpl, qui a lancé en mars dernier le vaste projet culturel Czech Open devant servir à la promotion de la maison olympique et plus généralement du pays dans la capitale britannique, explique les raisons du choix précisément de ce quartier.
Olympijské hry a koncept Českého domu a jeho sídla v Islingtonu byl velikánskou příležitostí, která nešla pominout.
Les Jeux olympiques, le concept de la maison tchèque et son emplacement à Islington étaient une chance et une opportunité que nous ne pouvions pas laisser passer. Islington est un quartier très intéressant, cosmopolite et vivant. Outre les parties résidentielles, s'y trouve la plus grande concentration de studios d'architecture et de design au monde au kilomètre carré. Il y a aussi beaucoup d'écoles, d'excellentes institutions culturelles comme le théâtre Sadler's Wells ou le théâtre Pleasance, et nous savions que nous serons là-bas dans d'excellentes conditions pour travailler.
Avec une superficie de 2000 m² et une capacité d'accueil de 2500 personnes, la maison tchèque de Londres sera assurément la plus grande du genre jamais pensée dans l'histoire des Jeux. Elle sera ouverte chaque jour de 10h du matin à minuit, et l'accueil et le service seront assurés par une centaine de volontaires sélectionnés lors d'un concours national. Coordinateur de l'équipe des volontaires, Tomáš Mirovský, précise quels ont été les critères de leur sélection.
Il fallait avoir au moins 20 à 21 ans, de très bonnes connaissances d'anglais, étant donné que les volontaires seront en contact direct avec les visiteurs de la maison, et surtout avoir de l'intérêt pour le sport, bien entendu, mais aussi pour le volontariat, car il s'agit de 17 jours de leur temps et à leurs frais.
La projection des compétitions des 30e Jeux Olympiques d'été sur 20 écrans géants et la célébration des succès des médaillés avec le public ne constituent qu'une partie de la mission de la maison tchèque. Le projet accueillera également le studio JO de la télévision tchèque, un restaurant Pilsner Urquell, partenaire du comité olympique tchèque, des bars, des stands de gadgets de souvenirs, des espaces de repos, des simulateurs de sport, des expositions artistiques ou des concerts, mais aussi des présentations des universités et de la science tchèque. Tous les visiteurs, et pas uniquement les amateurs de sport, devraient ainsi y trouver leur bonheur. Le programme prévoit par exemple des concerts de quelques-uns des groupes tchèques actuels, parmi les plus populaires comme Monkey Business, Support Lesbians, Toxic et Charlie Strait, ainsi qu'une exposition virtuelle de la Galerie Nationale et une installation de l'artiste David Cherny, connu pour ses projets provocateurs. Un prix d'entrée symbolique fixé à 5 livres ou 5 couronnes a été imposé par la mairie de Londres pour des raisons de sécurité. Comme cela a été annoncé par le vice-président du comité olympique tchèque, Jiří Kejval, la Czech House attend également avec impatience la visite du phénoménal sprinter jamaïcain Usain Bolt qui acceptait l'invitation, tout comme plusieurs légendes du sport tchèque telles que Věra Čáslavská, reine des Jeux de Tokyo et Mexico, qui a récemment fêté ses 70 ans et qui renaît depuis quelques mois à la vie après une profonde crise personnelle. Un grand nombre de visiteurs tchèques est attendu, Londres, plus accessible que Pékin en 2008, étant la terre d'accueil de milliers de Tchèques. En reliant les domaines du sport et de la culture, la maison olympique tchèque est appelée à devenir un endroit de rencontres exceptionnelles. Tout cela pour un budget de 90 millions de couronnes, environ 3,5 millions d'euros, montant estimé nécessaire pour une promotion de la République tchèque en tant que pays moderne et attirant.
Le Bohemia Jazz Festival fête cette année sa 7e année d'existence. Durant une dizaine de jours, une caravane de concerts variés et surprenants parcourt les villes de République tchèque. Le coup d'envoi de cet événement a été donné mardi à Prague, dans le somptueux cadre du jardin Waldstein, qui jouxte le Sénat. Radio Prague était au rendez-vous et a pu suivre les concerts du groupe Miroslav Hloutzal Quartet, vainqueur du Jazz Prix 2012, et du duo australien The Baker Suite. Les concerts du Bohemia Jazz Festival ont beau être gratuits, force est de constater que les places sont chères. À 16h30, soit une heure avant que le Miroslav Hloutzal Quartet ne commence à jouer, les bancs mis à disposition du public sont déjà tous occupés et les nombreux spectateurs restés debout sont aux aguets pour dénicher un coin où s'asseoir. Et ce d'autant plus qu'il n'est pas possible de s'installer sur une pelouse surveillée par d'inflexibles gardiens. L'exposition consacrée à l'attentat sur Reinhard Heydrich permet tout de même de patienter en flânant dans le magnifique jardin du Sénat. Finalement, Rudy Linka, un guitariste tchéco-américain reconnu qui préside et anime le festival depuis sa première édition, en 2005, prend la parole pour présenter les musiciens à venir.
La 7e édition, c'est un sacré chiffre. Cela devient une sorte de tradition. Mais cela ne signifie pas que le festival n'a pas de problèmes. Nous en avons beaucoup, au contraire. Et nous comptons sur votre soutien pour les surmonter ou au moins les atténuer. Le groupe que vous allez entendre a remporté en mars dernier le Jazz Prix, une compétition que nous organisons depuis 3 ans et dans laquelle s'affrontent des groupes allemands et tchèques dont les membres sont âgés de 20 à 30 ans. Et pour la première fois, c'est un groupe tchèque qui a gagné.
Les 4 membres du Miroslav Hloutzal Quartet commencent à jouer et le public se laisse tranquillement envoûter par la virtuosité des musiciens, applaudissant parfois au détour de mouvements audacieux. Radmila, une spectatrice francophone, nous livre son impression.
C'est une très bonne idée faire du concert dans ce jardin. Les musiciens sont bien et ça me plaît.
La soirée se termine dans l'ambiance cinématographique que parvient à créer le duo australien de The Baker Suite, composé d'une accordéoniste et d'un guitariste. Et ce ne sont là que les 2 premiers concerts d'une longue série, comme nous le révèle Rudy Linka.
Quelle sera la suite du festival ? Après ce concert au jardin Waldstein, nous resterons à Prague sur la place de la Vieille-Ville pour des concerts à ne pas manquer. Le vendredi 13, nous serons à Plzeň, le samedi 14 à Domažlice, dans une belle ville avec de la grande musique. Il ne faut pas laisser passer ça. Le 17, nous serons à Olomouc pour la première fois, puis le 19 à Brno avec un artiste indien remarquable, Trilog Gurtu. À ne pas manquer non plus, le 20, nous serons dans la ville historique de Tabor, dans le centre de laquelle trône Jan Žižka. J'y jouerai avec Luboš Andrešt et je ne laisserai pas passer ça non plus. Ensuite, nous serons à České Budějovice le 21, puis à Prachatice le 22.
Un florilège de concerts donc, à ne pas manquer, comme le dit si bien Rudy Linka. On continue avec un peu de musique. Ce jeudi s'est ouvert le marché français, organisé à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet au pied du pont Charles, sur l'île paroisse de Campa. Les passants, attirés par la musique, sont descendus déguster des produits gastronomiques attablés auprès de la scène où se produisait le trio musical mené par Eva Kritz-Livkova, une chanteuse tchèque au répertoire français qui participe pour la première fois à ce marché. Eva Kritz-Livkova est au micro de Radio Prague.
Oui, c'est la première année, mais je suis déjà venue plusieurs fois quand même. Ça me fait plaisir de voir tous ces stands, ça rappelle des marchés en France.
Que faites-vous dans la vie, hein ?
Je chante. Et ensuite aussi, j'enseigne la musique au lycée français de Prague. Il me fait beaucoup de plaisir parce que bon, je travaille avec les enfants, je dirige une chorale. Et je suis heureuse de pouvoir tout le temps parler français. Parce que si j'arrête, je ne me perfectionne plus.
Quel est votre artiste français préféré?
Il faut que je dise Edith Piaf, ça, je ne vais pas être trop originale, mais bon, c'est comme ça. Merci. Sinon, j'aime beaucoup Juliette Gréco aussi, et Charles Trenet, Yves Montand, et tout ça, Georges Moustaki. Voilà.
Elle me regarde même par la piste.
Bien que l'actualité politique dans le pays ait connu quelques rebondissements ces derniers temps, les médias aiment à se pencher en cette période estivale sur des thèmes plus légers qu'ordinaire. Alena Gebertova en a choisi quelques extraits, c'est la rubrique « Miroir de la société ».
Miroir de la société à la lumière de la presse.
Le quotidien Pravo signale dans une de ses récentes éditions que les Tchèques redécouvrent progressivement le charme de leur résidence secondaire. Appelée en tchèque chalupa ou chata, il s'agit pour la plupart de vieilles maisons de campagne, de chalets en montagne ou de cabanes, ces dernières étant situées souvent sur le bord de rivières ou des étangs. Par ailleurs, le nombre de ces demeures par habitant classe la Tchéquie en deuxième position à l'échelle mondiale, derrière la Suède. Le journal précise.
Dans les années 1990, après la chute du régime communiste, tout indiquait que la fameuse ère des résidences secondaires en Tchéquie allait se terminer, en raison des nouvelles préoccupations et possibilités qui s'ouvraient aux gens. Mais c'est le contraire qui s'est passé. Si en 1970, on trouvait en Tchéquie quelques 25 000 maisons de campagne, destinées uniquement à la récréation, leur nombre est aujourd'hui estimé à plus de 166 000. Si l'on y ajoute les chalets et les cabanes, ce chiffre s'élève à 400 000.
Le phénomène des résidences secondaires a commencé à se développer dans l'ancienne Tchécoslovaquie dans les années 50 et 60 du siècle dernier, comme réponse à la monotonie et à la grisaille de la vie imposée à la population dans un pays communiste. Ainsi, pendant des décennies, chaque vendredi après-midi, on a pu assister à un véritable exode vers la campagne, une grande partie des Tchèques quittant leur domicile en ville pour rejoindre leur résidence secondaire le temps du week-end. S'agissant de la situation actuelle, le journal remarque.
De plus en plus souvent, c'est dans leur résidence secondaire que les gens passent non seulement leur week-end, mais aussi leurs vacances, ceci notamment pour des raisons économiques. Il s'avère aussi que les gens confrontés à de graves problèmes financiers préfèrent plutôt vendre leur auto, leurs bijoux ou leurs tableaux que leur résidence secondaire, tellement ils y sont attachés. Par ailleurs, les émissions télévisées consacrées au jardinage et au bricolage et à d'autres aspects de la vie à la campagne ont des taux d'audience particulièrement élevés.
À l'heure actuelle, nombreux sont les propriétaires qui cherchent à utiliser leur résidence secondaire à des fins commerciales en les louant. Le quotidien Pravo signale également.
Il existe une autre tendance qui se répand notamment parmi les jeunes et qui veut que ceux-ci prennent plaisir à s'établir dans une maison de campagne ou dans un chalet pour y vivre pendant toute l'année, à condition que ceux-ci soient situés pas trop loin de leur lieu de travail. 100 km représentent en général pour eux la distance maximale acceptable.
Alors que la liste des candidats à la succession de Václav Klaus à la présidence de la République ne cesse de s'élargir, on ne discute que très peu de comment celui-ci devrait être, a écrit lundi le quotidien Mladá Frontanes. Tel un jeu de divertissement pour ses lecteurs, le journal a lancé une enquête auprès d'une trentaine de personnes connues, toutes catégories de profession, d'âge et de sympathie politique confondues, pour leur demander quel serait à leurs yeux le président idéal.
Rappelons que l'élection présidentielle aura lieu au début de l'année 2013 et que le chef de l'État sera élu pour la première fois directement au suffrage universel, d'où l'intérêt particulier que cette élection suscite d'ores et déjà dans les médias.
Les réponses des personnes interrogées dans cette mini-enquête, parmi lesquelles on a pu trouver musiciens, médecins, historiens, artistes, hommes d'affaires, conseillers, ont été assez différentes. Certains ayant répondu par deux ou trois phrases, d'autres ayant préféré rédiger une sorte d'essai en vue de décrire le président de leur rêve. Et voici ce que l'enquête a finalement révélé.
Le président idéal pour la Tchéquie serait une femme. Âgée de 45 à 70 ans, elle devrait être dotée d'un sens prononcé de l'humour. Une intellectuelle cultivée qui, cependant, n'aurait pas forcément besoin de posséder un diplôme universitaire. Être sans parti se présente comme un avantage.
À près de 7 mois de la prochaine élection présidentielle, les sondages montrent cependant une situation foncièrement différente, car leurs résultats ne favorisent aucune des femmes candidates. En tête de liste ne figurent que des hommes, Jan Fischer et Miloš Zeman, tous deux ex-premiers ministres, suivis de l'économe Jan Švejnar. Le journal donne la parole au sociologue Jan Hertzmann, qui explique ce paradoxe.
Cela fait longtemps qu'on l'on cherche une femme politique comme forme de résistance à ce que proposent sur la scène politique les hommes. Hélas, les propositions concrètes de candidates n'arrivent pas à satisfaire les gens et à répondre à leurs attentes.
D'ailleurs, la scène politique tchèque est traditionnellement très masculine. Au sein du cabinet de Petr Nečas, qui compte 18 membres, on ne trouve que 2 femmes. La prédominance d'hommes est très marquante aussi au sein des 2 chambres du Parlement. L'Euro 2012 terminé, c'est tout ce qui a trait aux prochains Jeux Olympiques d'été de Londres, qui constitue désormais le thème numéro 1 des pages sportives des journaux tchèques. Dans l'édition de mercredi du quotidien Lidové noviny, nous avons par exemple pu lire.
La télévision tchèque prévoit du 27 juillet au 12 août au total 468 retransmissions d'une longueur de 768 heures. 2 chaînes de cette télévision publique, pas seulement la chaîne sportive, seront réservées sans interruption aux émissions olympiques. Pour la première fois, la télévision tchèque aura son propre studio sur le lieu des Jeux, qui sera situé dans la maison tchèque, dans le quartier d'Islington. L'équipe de télévision comptera 50 de personnes.
Chaque jour, le journal évoque à tour de rôle les précédents succès olympiques des athlètes tchèques. Cette semaine, il a rappelé ceux des époux Dana Zatopkova et Emil Zatopek, déjà décédés, aux Jeux olympiques d'été d'Helsinki en 1952. Le coureur Zatopek y a gagné 3 médailles d'or, tandis que sa femme en a gagné 1. Le journal note.
C'était un succès hors du commun, car c'était en effet la première fois de l'histoire qu'en l'espace d'une seule journée, des époux gagnent chacun une médaille olympique d'or. Cela s'est passé le 24 juillet 1952.
Dana Zatopkova avait commencé sa carrière sportive en tant que lanceuse de javelot aux Jeux olympiques de Londres en 1948, où elle s'était classée 7e, avant de briller 4 ans plus tard à Helsinki. Âgée aujourd'hui de 89 ans, et toujours en bonne forme et pleine d'élan, elle s'est confiée au journal.
Mon cœur bat toujours pour le javelot. Je suis heureuse de voir que nous avons aujourd'hui encore d'excellents lanceurs et lanceuses qui peuvent se présenter aux Jeux Olympiques. Je vous assure que j'ai déjà noté la date de la compétition de Barbora Špotáková, médaille d'or au JO de Pékin, dont je suis une supportrice fervente. C'était la rubrique Miroir de la société qui vous a été proposée par Alena Gebertova. C'est ainsi que s'achève le programme de Radio Prague en français. Pierre Ménian vous remercie de l'avoir suivi et à demain.